Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et excusez-nous pour le retard, mais alors il y a un petit, même un gros problème en fait, c'est que Jacques Ravenne, avec les problèmes de train, etc., n'arrive qu'à 14h44. Donc, comme il est midi 10, il lui sera un peu difficile de participer à cette table ronde. Et vraiment, je m'en excuse, je suis vraiment désolé à ce sujet. Donc, on va, de toute façon, nous avons Jean-Luc Marcastel à côté de moi pour parler d'ésotérisme. Hein, et puis, si vous le permettez, j'interviendrai peut-être un peu plus que je ne le fais normalement pour parler malgré tout, parce que je pense que ça vous intéressera, du premier roman donc, de Jacques Ravenne et Éric Giacometti, où il y a quand même beaucoup de nazisme ésotérique, etc. Donc je suis vraiment désolé pour cet incident de programmation. Voilà, toutes mes excuses. Donc, comme je le disais, pour cette table qui n'a plus besoin d'être ronde maintenant, entre mystère et grande œuvre, donc récit et vie ésotérique, nous avons Jean-Luc Marcastel ici, qui a publié récemment Un pape pour l'Apocalypse, donc, dont on va parler sur l'une des grandes figures de l'ésotérisme qui est le pape de l'an 1000. Exactement. Et puis donc nous parlerons quand même du livre de Giacometti, d'Éric Giacometti et Jacques Ravenne, Le triomphe des ténèbres, qui est le premier volume de ce qu'ils ont intitulé Le cycle du soleil noir. Et comme certains d'entre vous le savent sans doute, le soleil noir, c'était le soleil de la SS, celui qui figure sur le sol du château de Wevelsburg. Donc, peut-être, alors, pour commencer déjà, Jean-Luc Marcastel, comment choisit-on un sujet pour un... Comment choisit-on son sujet pour un thriller ésotérique comme ça?
Alors, pour celui-là, c'est une conjonction de circonstances. Hein, d'événements qui ont fait. Bon, je suis d'abord moi originaire et je vis donc à Aurillac, la préfecture du Cantal, qui se trouve être la ville d'origine, enfin à ce qu'on pense et à ce qu'on dit, hein, de Gerbert d'Aurillac, qui est un des personnages principaux autour duquel s'articule mon récit. Donc Gerbert d'Aurillac, qui est plus connu sous le nom de Sylvestre II, qui a été le pape donc de l'an 1000. Qui a été pape de l'an 999, en fait, à 1003. Ça n'a pas duré très, très, très longtemps, ça a duré 4 ans. Qui est un personnage vraiment assez étonnant. Je l'ai découvert après, moi, petit à petit, je le connaissais. Il y a une statue chez nous, on a une statue de Gerbert, sur une des places de notre ville. Donc, j'y passais devant quasiment tous les jours quand j'étais gosse, et même encore maintenant. Et puis, à un moment donné, je me suis quand même penché sur ce personnage pour creuser un petit peu la question. Et là, j'ai découvert que c'était un personnage vraiment surprenant qui traîne derrière lui, en plus dans l'église, une réputation très sulfureuse, puisque c'était pour l'époque un savant, mathématicien, aussi un ingénieur, il aimait aussi la musique. Enfin, c'était une sorte de génie qui était un peu un touche-à-tout. Et forcément, dans l'église, à l'époque, ce personnage un peu atypique a été mal considéré. Et donc, il se trouve, pour écourter un peu, parce que je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, il se trouve qu'il y a quelques années, en 2014, on a mis à jour à Aurillac, lors d'une un promoteur immobilier qui a voulu faire une grande artère dans les vieilles rues de la ville, et ils ont mis à jour en fait les ruines de l'abbaye dans laquelle il avait étudié. Donc une des plus vieilles abbayes de France et une des plus grandes, qui était la grande sœur de Cluny, qui a servi de modèle à Cluny, et surtout ils ont mis des ruines à jour sur des fois 2 mètres de hauteur. Donc on savait qu'il y avait certainement les ruines de cette abbaye quelque part, mais personne ne se doutait de l'ampleur en fait de la découverte. Et donc d'ailleurs la municipalité est bien embêtée, c'est un peu comme une poule qui a trouvé une fourchette, ils ont ça, ils savent qu'il y en a encore d'autres, c'est encore plus grand que ce qu'ils pensaient, seulement personne n'a vraiment envie de mettre ça en avant parce que ça coûterait très très cher, donc ils sont très très embêtés par cette découverte, mais moi ça m'a donné une idée. Mais peut-être je vais m'arrêter là, je vais te laisser parler.
Non.
Donc, je disais que j'avais creusé un petit peu la question de Gerber, et j'avais découvert, entre autres légendes sur Gerber, mais il y en a d'autres, hein, que, et moi ça m'avait fasciné, que Gerber d'Aurillac, enfin Sylvestre II, ce pape mathématicien, aurait eu en sa possession une tête mécanique qui aurait répondu par oui ou non aux questions qu'on lui posait. Alors, il y a des gens qui se sont enflammés à propos de ça, qui ont dit, voilà, oui, non, c'est le système binaire des ordinateurs. Donc, serait-ce un calculateur médiéval, hein, comment cette machine aurait pu exister, et donc, moi, j'ai dit, mais ça, voilà, ça serait, qui serait extraordinaire, c'est qu'on retrouve sur les ruines de cette abbaye la fameuse tête mécanique de Gerber. Et donc, de là est partie l'idée de base du livre.
Mais est-ce que Jacques Bergier n'en a pas parlé dans un de ses livres ?
Bergier, effectivement... Hein, donc il s'est quand même énormément penché sur tout ce qui est ésotérisme. Là, tu
on peut peut-être rappeler qui est Jacques Bergier.
Allez, vas-y, je te laisse faire ça, c'est toi le spécialiste.
Jacques Bergier, qui était un chimiste de formation et qui a été un résistant pendant la guerre, était aussi un très grand passionné de science-fiction. Il lisait avant la guerre tous les pulps de science-fiction américains, ces magazines qui à l'époque arrivaient encore en France. Et après la guerre, il a été très influent, d'une part en ce qui concernait la science-fiction, parce qu'il a contribué à faire, par exemple, pour ceux qui connaissent, à fonder la collection du Rayon Fantastique. Et en même temps, il s'intéressait beaucoup à un certain nombre de problèmes, dont celui des causes du nazisme. Et pour lui, le nazisme, il y avait une connotation ésotérique très forte. On en reparlera après parce que c'est justement une partie du sujet du livre de Giacometti et Ravenne. C'est la dimension noire et magique du nazisme. Et Jacques Bergier, on le connaît surtout parce qu'il est le cofondateur avec Louis Powells de la revue Planète, qui a suivi le succès d'un livre dont vous avez sans doute tous entendu parler, qui s'appelle Le Matin des Magiciens, qui est sorti en 1961, et où justement Bergier et Powells étudiaient d'une manière absolument fascinante, parce qu'ils n'hésitaient pas à mélanger faits et fictions allègrement, et tout était mis sur le même plan, parce que pour Bergier, les auteurs, de toute façon, qu'il citait, étaient des auteurs inspirés, donc ils disaient la vérité sous une forme romancée, ce qui est quand même bien pratique, hein, comme méthode. Et donc, Bergier, dans Le Matin des Magiciens, parlait justement beaucoup du nazisme, il parlait de l'alchimie avec Nicolas Flamel, et il me semble qu'il parle de Gerber à un moment.
Il évoque à un moment donné, effectivement, Gerber, dans ses différentes légendes qui courent sur son compte, celle de cette tête mécanique, mais on prétendait aussi qu'il parlait aux oiseaux, on prétendait entre autres choses, alors il y a une légende justement à propos de cette tête mécanique qui disait qu'il serait parti en Inde, alors qu'est-ce qu'on appelait les Indes à l'époque, hein, on sait pas trop, et qu'il aurait là-bas étudié auprès de certains sages et aurait justement ramené cette fameuse, enfin la technique pour créer cette fameuse tête mécanique. Partant de là, alors il était question de sages, des supérieurs, les supérieurs inconnus. Alors une légende qui concerne, tu pourras en parler peut-être, des supérieurs inconnus, les neuf supérieurs inconnus, c'est une légende qui prétendait qu'en Inde, il y aurait eu à un moment donné un empire extraordinaire, et un des premiers, alors je ne me rappelle plus comment, c'est Chandragupta, je crois, enfin un des premiers dirigeants de l'Inde, oui, qui aurait utilisé pour attaquer une cité rivale, alors des sciences, enfin des techniques effroyables. Et donc en voyant les morts et le massacre qui aurait eu lieu, aurait dit, voilà, non, moi je veux que mon peuple maintenant soit réuni dans la paix, l'harmonie, etc. Donc je renonce à toute science ou technologie, enfin ces sciences terribles. Et donc aurait divisé ces sciences entre neuf personnes, chacune ayant un domaine particulier. Alors un, ça aurait été, alors je ne me rappelle plus exactement tout, mais c'est la gravitation, l'autre ça concernait la cosmogonie, enfin etc. etc.
Oui, il a divisé
voilà, les savoirs.
Les savoirs.
Voilà. Et en fait, ils étaient censés les garder parce qu'ils ne voulaient pas les détruire, mais on ne sait jamais si un jour, hein, l'humanité atteignait peut-être un certain degré de, on va dire, de sagesse, elle pourrait être utile, mais que jusque-là, il fallait les garder, donc chacune verrouillée. Et c'est pour ça que l'Inde serait devenue un pays de spiritualité et non pas un, hein, de technologie, etc., etc. Et donc, ben, moi, dans mon livre, il est entre autres question de ça, puisqu'à un moment donné, il y a une des légendes qui courait comme quoi Gerber aurait été apprendre auprès d'un de ses supérieurs inconnus et aurait appris donc cette technique dont il aurait fait cette fameuse tête mécanique. On en prétendait aussi qu'il aurait été étudié, qu'il aurait été... Alors, il y a une autre légende qui prétendait qu'il était allé chez les morts dans le sud de l'Espagne et qu'il aurait fait un pacte avec le diable voilà, pour avoir tous ses savoirs, tous ses pouvoirs. Enfin bon, bref.
C'est... Il faut dire qu'effectivement, à l'époque, l'Espagne arabe était l'un des grands lieux de savoir et qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les universités et les étudiants partaient bon, pour 2, 3, 4 ans étudier dans les grandes universités arabes.
Dans les bibliothèques, pour avoir accès au savoir, entre autres, des savants grecs et latins, puisque en fait, les Arabes traduisaient, ayant retrouvé, entre autres, dans les cités un petit peu qui étaient en Afrique, où les écrits se conservaient mieux, entre autres, à cause de la chaleur, ayant retrouvé les textes latins et grecs, les avaient traduits en arabe, et nous, après, on va dire, les moines, etc., qui étaient à la frontière espagnole, dans les monastères de Ripoll, par exemple, des choses comme ça, traduisaient, au contact avec la civilisation arabe, traduisaient ces textes, et donc nous ont traduit indirectement les textes des anciens grecs, et les sciences, entre autres, des anciens grecs. Et donc, moi, le personnage de Gerbert d'Auriac, dont je me sers dans le livre, enfin, qui est un des personnages du livre, en fait, c'est un d'après la légende. Hein, il faut mettre quand même des petits guillemets, surtout sur le début de sa vie. Enfin, d'après la légende, serait né, aurait été un petit pâtre qui serait né quelque part dans un petit village à côté de chez moi, hein, à 5 km. Hein, j'y passe quasiment tous les jours quand je fais un tour en vélo. Et les moines de l'abbaye, donc d'Auriac, revenant un soir, alors je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient partis en excursion, enfin, et l'abbé aurait remarqué ce petit pâtre dans un champ, car il regardait les étoiles à travers un bâton évidé. Et donc l'abbé aurait discuté avec cet enfant, il l'aurait trouvé très intelligent, et donc aurait demandé à sa famille s'il voulait bien le céder comme oblat, enfin voilà, devenir un apprenti à l'abbaye d'Auriac. Donc il aurait fait ses premières armes en quelque sorte à l'abbaye d'Auriac, il aurait appris les sciences, ce qu'on appelait le quadrivium à l'époque. C'était assez marrant d'ailleurs de voir, par exemple, dans les sciences de l'époque qu'on apprenait dans les monastères, que les mathématiques et les sciences étaient appris en même temps que la musique, qui était considérée comme une science. La musique aussi. Et donc, il a appris donc, toutes les sciences, etc., enfin, tout ce qu'on pouvait lui apprendre au monastère d'Auriac. Mais les moines se sont très vite rendus compte, quand ce gamin a eu 15-16 ans, qu'il dépassait largement eux. Enfin, il avait une capacité d'apprentissage et une intelligence extraordinaire, et qu'il avait déjà appris tout ce qu'il pouvait lui apprendre. Et donc, quand un noble venu de Catalogne est passé en pèlerinage à Auriac, puisqu'il y en avait beaucoup, c'était un grand lieu de passage, il y avait des reliques de Saint Géraud qui attiraient beaucoup de monde. Ils ont demandé à ce noble-là, ils lui ont dit, écoutez, est-ce que vous voudriez pas le prendre? On a cet apprenti qui est très intelligent, et il paraît que dans les monastères vers chez vous, on apprend les sciences, etc., est-ce que vous voudriez pas le prendre avec vous? Et il l'a pris avec lui, et donc Gerbert est parti dans ces monastères à la frontière espagnole, où il a continué, il a appris les sciences, entre autres les mathématiques, puisque c'est lui qui a introduit les mathématiques arabes en France, en Occident, et qui a même créé ce qu'on appelle un abac, c'est-à-dire une espèce de table à calcul, qui a permis pour la première fois les divisions et les multiplications, ce qui était jusqu'alors totalement impossible avec les chiffres romains. Et mieux que ça encore, c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle la numérotation de position, c'est-à-dire l'idée toute simple finalement et toute bête de dire dans un chiffre, on va poser ici les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Avant ça, dans les chiffres romains, on n'avait pas ça. Donc voilà, c'est lui qui a inventé ça, donc, et qui a donc inventé, on va dire, qui a fait rentrer chez nous tout ce qui est les mathématiques en quelque sorte modernes. Sauf le zéro, parce que l'Église interdisait qu'on représente le néant. On n'avait donc pas le droit de faire le zéro. Donc quand il y avait le zéro, ben c'était vide. On mettait un emplacement vide.
Oui, je crois que le zéro, il a été introduit vraiment un peu plus tard.
Plus tardivement.
Puisque c'était les Indiens, si je me souviens bien, qui avaient au départ qui avaient fait ça. Et les Arabes, et les chiffres qu'on appelle arabes, mais quiconque est allé dans les pays arabes s'aperçoit que les chiffres arabes que eux utilisent ne sont pas du tout les nôtres, mais ce sont les Arabes qui ont justement traduit certains des textes des grands mathématiciens indiens, et c'est comme ça que le zéro est arrivé.
Oui, les Arabes qui sont, que ce soit dans le commerce, etc., de grands passeurs, entre autres de connaissances, de marchandises, mais aussi de connaissances, comme toutes les civilisations marchandes, donc avaient effectivement appris les mathématiques auprès de savants indiens. Et c'est donc les mathématiques ont transité donc par les pays arabes et sont arrivées donc en Occident après, plus tard. Mais je dois avoir sur le livre, je ne me rappelle plus quelle page c'est, une abac de calcul justement. Je vais essayer de vous la trouver.
Un abac, oui. Alors, pendant ce temps-là, un petit mot, parce que Jean-Luc Marcastel faisait allusion donc à Gerbert qui est parti étudier dans certains monastères espagnols. Il faut dire que là aussi, d'un point de vue ésotérique, l'Espagne, en particulier le nord de l'Espagne, et un lieu hautement sacré et énigmatique depuis longtemps, puisque, par exemple, et Giacometti Ravenne le rappelle dans le Triomphe des Ténèbres, c'est outre le fait que dans un des monastères espagnols, il y a ce qu'on appelle le suaire d'Oviedo qui comporterait le portrait authentique du Christ après qu'il se soit essuyé sur une serviette. Il y a aussi, c'est aussi dans le nord de l'Espagne que quelque part serait caché le Graal. C'est l'une des grandes traditions pour le Graal. Le Graal serait dans le nord de l'Espagne. Donc peut-être que Gerbert aurait pu y jeter un coup d'œil
peut-être
aussi.
Peut-être, effectivement. Alors ben voilà, alors, je ne sais pas si on... Ben, vous ne voudrez peut-être pas, ou après ça je peux faire passer le livre, mais voilà, un abaque, ça se présente comme ça, avec ce que je disais, la numérotation de position qui était révolutionnaire à l'époque. Unités, dizaines, centaines. Hein, et puis les chiffres qui sont à côté, qui sont les chiffres arabes de l'époque. Alors il y en a certains, effectivement, qui ressemblent aux chiffres qu'on utilise, comme le 8, par exemple, ou le 7, qui ressemblent un petit peu, hein, ou certains autres. Mais par contre, d'autres sont... peu différent, ça s'est transformé aussi au fil du temps. Voilà. Donc, et ça, voilà, c'était quelque chose. Donc, évidemment, ce pape, un petit peu, qui faisait aussi. Donc, je disais qu'il était polytechnicien, il a créé un orgue hydraulique, par exemple. Il créait des astrolabes, des horloges. Et, donc, évidemment, dans l'église, ça a été. C'était assez mal considéré pour l'époque. Mmh. Et il se trouve en plus que c'était un homme, c'était un savant, mais aussi doublé d'un homme politique. Qui était, quelqu'un m'a employé cette expression qui m'a fait sourire, m'a dit c'était le Obama de l'époque. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a effectivement créé des empires. C'est lui, par exemple, qui a été couronné le roi de Hongrie à la place du roi de Pologne, parce qu'il trouvait que c'était plus intéressant. Et c'est lui qui a contribué à mettre sur le trône aussi, surtout, Hugues Capet. Hein, au départ, il était plutôt tourné vers les Ottoniens, enfin, les descendants de Othon et d'Othon Ier. Il a essayé dans son idée, lui, voilà, il fallait apprendre aux élites, justement, les sciences, etc. Et donc, à un moment donné, il a jugé que UKP était un des candidats les plus sérieux. En fait, il voulait réunir de nouveau toute la chrétienté, faire une sorte de nouvel empire romain dans la paix. Hein, donc, il a essayé d'œuvrer à ça toute sa vie, au moment où les 4 ans qu'il a passés à la papauté. Mais évidemment, quand on prend parti pour un, on se fait des ennemis chez les autres. Et donc, il avait quand même pas mal d'ennemis et pas mal de personnes qui avaient envie de le faire sauter un petit peu du siège pontifical, et donc il y en a certaines de ces légendes qui courent sur lui, un peu où on l'accusait d'être... il a quand même été excommunié, hein. C'est quand même un seul pape qui a été excommunié avant de devenir pape, c'est quand même très fort, hein, parce qu'il y en avait qui voulaient se débarrasser de lui, voilà. Donc je pense qu'il y a aussi une partie de ces légendes sont dues à cet état de fait politique, on va dire.
Voilà. Donc voilà, Jean-Luc Marc Castel vient de retracer un peu la vie de Gerbert, pour que vous ayez une meilleure compréhension de ce qu'on va dire maintenant, parce qu'on va peut-être rentrer un petit peu plus. On revient maintenant, on démarre à la période moderne, où, avec ce que vous avez expliqué et ce que vous écrivez dans le livre, on découvre que, en fait, la construction de parking, c'est vachement utile pour la recherche archéologique. Hein, ça devrait être développé, il faut tout raser, et comme ça, on va trouver plein de choses. Donc, alors, on est à Aurillac.
On est à Aurillac.
Et on a un malheureux...
inspecteur.
Qui est bien triste d'être exilé.
Qui est bien triste d'être exilé. Voilà, mon héros, donc Malo Sinclair, est un jeune as de la crime à Paris. Enfin, jeune, pas si jeune que ça, finalement. Enfin, donc, qui a été exilé en province, car il a commis une bavure. Enfin, voilà, il a eu le tort de casser la figure à un petit violeur, qui se trouve malheureusement être le fils d'un ministre. Et donc son supérieur hiérarchique le envoie au fin fond de la province, donc dans ma ville d'origine, à Aurillac. Et donc lui, il s'ennuie comme un rat mort. Il a les seules affaires qu'il a, c'est des maris trompés qui décrochent le fusil au-dessus de la cheminée pour faire un carton et descendre Bobonne et son amant quand ils ont l'occasion, et peut-être eux aussi dans le mouvement. Bref, c'est résolu en 3 secondes. Et jusqu'au jour où un archéologue vient le voir au commissariat et pour lui demander son aide, puisque on vient de lui voler un objet, c'est un objet qui se trouve être cette fameuse tête mécanique et qu'ils ont retrouvé, qu'ils viennent de retrouver sur les fouilles de l'abbaye. Et justement, ils comptaient sur ça pour faire du sensationnel et obtenir des subsides pour poursuivre les fouilles. Et malheureusement, l'objet a été volé, va s'en suivre après un meurtre. Et notre enquêteur, trop heureux d'avoir enfin une véritable affaire à se mettre sous la dent, hein, va quand même vite déchanter parce que les cadavres commencent à pleuvoir les uns après les autres. Mais enfin, il va se lancer sur les traces de l'assassin, ce qui va l'amener donc du fin fond de l'Auvergne jusqu'à Paris, puis de Paris à Londres, de Londres à Madrid et finalement de Madrid à Rome, à la cité éternelle où tout se terminera.
Il ne faut pas trop spoiler quand même, parce que voilà. mais disons que Malo Sinclair, quelque part, poursuit sa propre quête. Il suit le chemin traditionnel, en fait.
C'est ça, exactement. Et puis, en plus, dans son aventure, il va être accompagné, on va dire, par deux autres personnages, un personnage avec un P majuscule, des personnages, dont un hors norme qui est donc lui son second, en quelque sorte, qui est un espèce de berrurier cantalou, on va dire, hein, un espèce de géant de pratiquement 2 mètres de haut, comme je dis dans le livre, qui est né pour jouer au rugby, et ça tombe bien parce qu'il y joue effectivement. Qui déménage comme personne, enfin il le soupçonne, comme il dit, il aime beaucoup trop son métier pour devenir rugbyman à plein temps, hein, parce qu'en fait il le soupçonne d'aimer énormément mettre des claques. Il met des claques comme personne, effectivement, hein, de manière tout ce qu'il y a de plus. Enfin, il n'est pas raciste pour deux sous, hein, les blancs, les jaunes, les noirs, les rouges, lui pour lui c'est tout un. Et en plus de ça, donc c'est un bon gars de la campagne qui lui sort les dictons en patois de sa grand-mère. Enfin, pour lui, mais c'est une horreur, quoi. Ce type, c'est un enfer. Et petit à petit, évidemment, au fil du livre, mais quelque part, c'est un peu un espèce de Watson, moins malin, mais parce qu'il donne, en fait, sans le faire exprès, régulièrement, l'indice qui va permettre au héros de progresser dans son enquête. Et lui, des fois, il est abasourdi, il lui dit à un moment donné, mais vous êtes une sorte de génie, vous, ou quoi ? En fait, il le voit un peu comme une espèce d'autiste surdoué. Et donc il y a des rapports entre ces deux personnages qui sont assez amusants. Évidemment, ils vont apprendre à s'apprécier. Enfin, s'apprécier. Lui, on finit par le considérer un peu comme une espèce de grand gosse trop vite poussé, Albert. C'est Albert, hein, il s'appelle son second redoutable.
Oui, effectivement. Et donc, ils vont découvrir, là aussi, sans trop spoiler, qu'effectivement, il y a toute une vie, un monde caché, ce qui est le propre de l'ésotérisme, d'ailleurs, théoriquement, d'être caché. Voilà. Qui grouille un peu partout, et donc toutes ces sociétés discrètes, secrètes, qui servent de paravent. Alors je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien aussi.
Oui, bah j'avais dans Les Enfants des Rébus, voilà, déjà développé, où justement il était question de l'Annonerbe, on parlait tout à l'heure du nazisme, etc. Donc ça aussi que j'ai découvert, enfin, finalement assez tardivement pour moi, tout ce volet ésotérique concernant la Seconde Guerre mondiale.
Bah vous étiez lecteur de Planète, j'en ai parlé.
Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que c'est assez étonnant quand on se penche. Puis quand on commence à tirer le fil de ces choses-là, hein, c'est comme quand j'ai commencé à tirer le fil de Gerber, et surtout sur ce côté légende, j'avais presque l'impression que l'histoire s'écrivait toute seule. Parce que d'abord, ça commence par cette tête mécanique. Je tire un peu plus loin. Tiens, il a été en Inde, faire un voyage en Inde. Je tire, tiens, on me parle des 9 supérieurs inconnus. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je tire le fil un peu plus loin. Alors j'apprends, voilà, de ces histoires. Mais j'avais l'histoire qui s'écrivait toute seule au fur et à mesure que je tirais le fil. Je suis passé de... Bon, c'est vrai que c'est commode. C'est tellement commode. C'est là où l'ordinateur est Wikipédia. C'est-à-dire qu'on suit un lien qui nous amène à un autre. Et c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'écrivais mes romans, quand je devais, par exemple, je ne sais pas, moi... Là, dans le livre, à un moment donné, il y a un passage qui se déroule, je ne sais pas, prenons à Madrid. Je prends une rue de Madrid. Avant ça, si je voulais décrire un peu les rues de Madrid, il fallait que j'aille chercher à la bibliothèque un plan, que je regarde des photos, des fois, si le bouquin ne datait pas d'il y a 30 ans, où les bâtiments n'existaient plus, enfin, ce genre de choses. Maintenant, on arrive avec Google Street View, vous pouvez même vous mettre quasiment au coin de la rue, vous pouvez décrire la rue, dire tel bâtiment, et c'est assez extraordinaire. Et pour les recherches, quand on fait des recherches sur l'ésotérisme, etc., c'est pareil, il est très facile de sauter d'un lien à un autre, et donc, comme ça, de trouver des informations, puis d'aller plus loin. La recherche est facile et puis fascinante aussi. C'est vrai qu'on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas.
C'est vrai. Et justement, ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est qu'à la fin, vous faites un petit dossier qui permet aux lecteurs qui sont intéressés de pouvoir justement aller sur les bons endroits de Wikipédia tout de suite. Donc.
Voilà, exactement. Ça, c'est mon côté. Je pense que j'ai été enseignant dans une autre vie, on va dire. Et ça, il reste ce petit côté où j'aime bien mettre à la fin souvent un petit dossier didactique ou simplement des informations si les gens veulent aller plus loin, veulent un peu creuser le sujet en leur donnant quelques clés, quelques passages ou rétablir une réalité historique, par exemple, dans certains cas. Dire, bon, ben là, ça, c'est pas vrai, mais par contre, vous pouvez aller vérifier telle ou telle chose. Voilà.
Alors, là, on va peut-être, si vous avez des questions, comme nous sommes en relativement petit comité, autant en profiter. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Alors moi, c'est-à-dire, moi, je garde tout le temps à l'esprit que la première chose que je dois faire, et la chose la plus importante, c'est de raconter une histoire. C'est-à-dire que ce qui fait avancer l'histoire, est-ce que moi, en tant que lecteur, alors ça dépend, après, il y a des lecteurs qui vont être plus, on va dire, peut-être plus tournés vers la recherche ou vers la découverte, etc., qui seront plus intéressés par le côté ésotérique. Il y en a d'autres, simplement, ils veulent qu'on... Bah, là, c'est un polar. Donc il faut quand même que l'histoire avance. Si on se perd, c'est toujours. Alors ça, c'est toujours le danger, que ce soit justement dans tout ce qui est polar, enfin, ou je veux dire tous les livres qui tournent autour de quelque chose d'historique ou d'une civilisation, etc. Et les Américains sont très forts pour ça, d'ailleurs, je trouve. C'est de réussir à faire quelque chose où vraiment on a l'impression d'apprendre des choses qu'on ne savait pas, mais que jamais l'auteur ne perd, voilà, de vue qu'il doit avant tout raconter une histoire. Il ne doit pas se perdre dans ses notes, dans ses recherches. C'est vrai que quand on cherche, on découvre des choses, on a une masse de documentation, en plus maintenant, facilement, qui est énorme. Et il est très facile de se perdre là-dedans, de dire, ouais, mais ça, je vais le mettre, ça, je vais le mettre aussi, ça, je vais le mettre aussi. Et il y a un moment donné où ça devient un peu indigeste. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une histoire, on est en train de faire un dossier, une compilation, hein, de savoir. Alors, ce qu'il faut, c'est savoir en mettre suffisamment pour que le lecteur ait envie d'aller voir plus loin. Mais par contre, en continuant de maintenir le suspense et de raconter une histoire et de faire avancer son histoire. Et ça, c'est un peu... c'est à l'éditeur de veiller au bon grain et de dire, non, là, il faut couper. Non, mais voilà, ça, je fais très attention dès le moment où... plus quand on fait des recherches, on a envie. C'est vrai qu'on a envie, on se dit, tiens, mais ça, c'est intéressant, ça, c'est aussi intéressant. Il y a un moment donné, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, voilà, de savoir, non, ça, c'est intéressant, mais on ne le mettra pas. Et comme me disait un de mes éditeurs une fois... qui avait travaillé dans la presse, et je disais, mais non, mais ça, c'est vachement important. Il dit, non, mais de toute façon, le lecteur ne le saura jamais. C'est vrai, puisque de toute façon, il ne saura pas que ça pouvait y être. Donc, voilà.
Ça, évidemment, c'est un bon argument, c'est quelque part. Bon argument. Et c'est vrai aussi, alors là, pour mentionner un petit peu le Triomphe des Ténèbres, les deux auteurs, Giacometti et Ravenne, font la même chose parce qu'ils ont pris un tissu historique. L'action démarre à la fin de la guerre d'Espagne quand Franco vient d'asseoir son pouvoir. Et donc, on suit toute une trame jusqu'au début de la guerre, donc, qui est où tous les événements historiques sont là, c'est ceux qu'on connaît. Mais eux, en tant que romanciers, nous révèlent un certain dessous de carte qui est l'histoire cachée derrière. Par exemple, on apprend quel était le véritable but de la rencontre entre Hitler et Franco. C'était à Hendaye, si je me souviens bien, ils se sont rencontrés à la frontière en France. Donc, ce n'est pas du tout comme nous le croyons tous bêtement et comme tous les historiens veulent nous le faire croire. Ce n'est pas du tout pour essayer de faire que Franco rentre en guerre et coince les Anglais en essayant de récupérer Gibraltar et donc bloque la flotte anglaise pendant ce temps-là. Pas du tout. C'est parce qu'il y a donc un tableau qui est fondamental pour les recherches ésotériques de l'Annonerbe qui, elles, ont véritablement existé et qui étaient soutenues par Himmler, qui était un passionné d'ésotérisme. D'ailleurs, on a retrouvé la bibliothèque ésotérique de Himmler, qui comportait plusieurs milliers de volumes. Alors évidemment, c'était un peu orienté, hein, c'était pour prouver que la civilisation aryenne était la plus ancienne, la plus développée, et que tous ces métèques depuis qui avaient abattardi l'arianisme, il fallait revenir aux sources.
Ils étaient censés descendre des Atlantes, non, c'est pas ça, je crois.
De l'Hyperborée. C'était des descendants de Conan. Et donc, ils veulent en fait, à travers ça, obtenir de Franco l'accès à un certain monastère où, planqué dans le trésor du monastère, il y a un tableau oublié de tout le monde, sauf de quelques rares érudits, qui étaient juifs. Alors, on les a fait parler avec beaucoup de persuasion, et ensuite, on s'en est débarrassé, comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de fuite. C'était bien pratique. Et donc, c'est uniquement pour cela. Et dans le bouquin, on trouve, comme ça, beaucoup d'événements qui sont intégrés et où on apprend, en fait, où ils nous apprennent un certain dessous des cartes. Et ça, je crois que c'est ce qui fait, comme vous avec Gerbert, et les supérieurs inconnus, etc., en fait, par rapport à une histoire exotérique, qui est celle que nous connaissons tous, on découvre celle qui est cachée derrière.
Oui, oui, exactement. Et puis après ça, bah, y a le... Donc, ce que j'ai découvert, moi, à propos de ces supérieurs inconnus, etc., et puis à partir de là, on brode. Après, on s'amuse. Ça fait de la matière première à toute une idée. Donc, puisque moi, dans le livre, on va... pas en dévoiler trop, tu penses que j'en dis...
Il ne faut pas en dire plus que ça.
Voilà, plus que ça. Voilà, on va remonter, mon héros va remonter le fil, et donc à chaque fois, on a une nouvelle énigme qui amène à une suivante, hein, un petit peu plus haute, un petit peu... On va comme ça à chaque fois. Tout ça semé de cadavres, évidemment, mais en même temps, où justement, le lecteur peut s'interroger, et où j'essaie de surprendre un petit peu le lecteur à chaque fois, que j'ai, de le prendre un peu à rebrousse-poil, hein, jusqu'à la fin, de maintenir un peu le suspense jusqu'à la fin. Voilà.
C'est-à-dire que l'intérêt, c'est quand on lit ces romans qui sont bien écrits, c'est que on sait qu'on a un roman, et quand on le referme, on se dit, après tout, quand même, peut-être que, pourquoi pas. Et c'est ce qui permet à un certain nombre d'illuminer, hein, y a pas d'autre terme, en particulier sur Internet, dans un certain nombre de domaines, comme en particulier le conspirationnisme, etc., de vous dire qu'en fait, Jean-Luc Marcastel, il veut nous faire croire que c'est un roman, mais c'est pas vrai. Il a été missionné pour, sous couvert de roman, nous révéler une vérité dérangeante.
Comme disait Bergier, donc en fait, voilà, je suis... Comment tu as dit tout à l'heure ?
Voilà, des écrivains... Tu es un auteur inspiré.
Inspiré.
Voilà, auteurs inspirés. Et en fait, c'est l'esprit de Gerbert et l'influence des supérieurs inconnus qui l'ont fait écrire. C'est pour ça qu'il a dit qu'il l'avait écrit très facilement, que le roman s'écrivait tout seul. C'est pas, en fait là, la vérité, c'est pas Jean-Luc Marcastel. Il a écrit sous la dictée de Gerbert.
De Gerbert, voilà, exactement. Quand des fois on dit comme ça, mais ça sort tout seul, en fait, c'est pas que ça sort tout seul, c'est que... Mais c'est une idée assez répandue, ça. Hein. Moi, j'ai des gens autour de moi comme ça qui disaient, mais telle histoire, de toute façon... Alors, j'ai comme ça des gens, quelqu'un qui était un peu illuminé, qui m'a dit, mais en fait, vous êtes un passeur, en fait. Hein, ça vient d'ailleurs, les histoires, elles viennent d'ailleurs, ou elles viennent d'un autre monde, et vous recevez les ondes d'un autre monde, et en fait, c'est pour ça que ça vient facilement, ou ça vous vient... Voilà, vous recevez des échos... Voilà.
C'est ce qui est arrivé beaucoup à une époque où lorsque le spiritisme à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle est très très répandu, il y a eu un certain nombre de médiums qui ont affirmé avoir écrit sous la dictée des ouvrages, et l'un des plus célèbres, c'est Le mystère d'Edwin Drood, dont le nom de l'auteur, qui est hyper célèbre, donc c'est honteux, m'échappe naturellement juste maintenant, donc un des plus grands écrivains de l'époque, il a le mauvais goût de mourir avant de compléter son roman. Donc, frustration générale, et il y a au moins deux médiums différents à qui l'esprit de cet auteur, dont le nom va me revenir, a dicté la fin. Sauf que les deux sont complètement différentes l'une de l'autre, hein. Donc, où il est devenu, où l'auteur en question, l'esprit était schizophrène, il y a eu quelque chose, mais en tout cas, on a deux fins différentes dictées par l'esprit de l'auteur.
Peut-être qu'il avait deux fins différentes pour son histoire, finalement.
Ou alors, il voulait des fins alternatives. Des fins alternatives, il ne se décidait pas. Et on a un certain nombre d'autres grands romans comme ça qui ont été écrits sous la dictée des esprits. Comment ? Dickens, voilà. Oui. Le modérateur rouge de honte. Bon.
Alors c'est vrai que ça c'est marrant quand des fois justement j'ai ce genre de une fois j'avais eu ce genre de je me dis mais quand même je dis oui enfin sous la dictée comme ça sort tout seul. Moi j'ai l'impression que c'est quand même du travail ça fait, et que j'ai quand même vachement bossé pour l'écrire mon histoire. On se sent un peu dépossédé tout à coup. Mais c'est assez amusant.
Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas, profitez-en. Hein. Jean-Luc Marcastel est tout à vous.
Voilà.
Ou sur l'ésotérisme en général, ou d'autres récits ésotériques, je ne sais pas, qu'est-ce que...
Ben justement, c'est amusant que tu poses la question, parce que la dame qui est à côté de toi, là, qui se trouve à être mon éditrice, ben justement, là, on est en train de réfléchir à un roman et on a très exactement ce dilemme. On est sur un thème, on est tout à fait d'accord tous les deux, donc on veut faire ce roman, mais on n'a pas encore, et on sait qu'il y a l'histoire, hein, l'histoire, voilà, on a l'histoire, tout ça. Mais on hésite à savoir si on va le basculer plutôt d'un côté un peu fantastique, si on va ou si au contraire on va le gommer presque ce côté fantastique. Donc la balance entre les deux, c'est assez voilà, c'est assez difficile là. Alors là, sur le pape, par exemple, c'était vraiment un petit peu, je suis un peu vraiment entre les deux. C'est-à-dire que je suis entre guillemets sur la corde raide. C'est-à-dire que pendant tout le livre, on ne sait pas vraiment si on est dans quelque chose qui est fantastique ou qui ne l'est pas, et d'ailleurs même la fin, finalement, laisse planer un doute. Hein, alors ça, c'était aussi volontaire de ma part, je voulais garder ce fil, hein, qu'on ne sache jamais, donc on a, si ces fameuses histoires de ces fameux supérieurs inconnus, est-ce que c'est vraiment des supérieurs inconnus ou est-ce que ce sont des types, des illuminés qui se prennent pour les supérieurs inconnus ou est-ce que c'est vraiment... Voilà, il y a toujours un doute, hein, qui plane finalement sur l'histoire. Et je trouve ça intéressant. Après ça, chaque lecteur est libre aussi de se faire sa propre idée. J'aime bien aussi cette idée-là de se dire que le lecteur lui-même, voilà, peut choisir sa propre vision de l'histoire. Est-ce que c'est quelque chose de fantastique ou pas? Et c'est vrai, quand on est sur ce genre de registre, je trouve que c'est intéressant de maintenir. Parce qu'après ça, ben forcément, si on bascule totalement dans le fantastique, on bascule, voilà, dans le registre vraiment de l'imaginaire, ou alors après ça, simplement du polar, voilà, classique.
Oui, mais enfin, il me semble que effectivement, il y a quand même une différence parce qu'un pape pour l'Apocalypse donne vraiment l'impression d'être une histoire cachée et
Oui.
qui est révélée, qui est étayée par beaucoup d'éléments historiques, etc. Bon, le fait qu'on se pose la question de savoir si ce sont des illuminés ou pas, c'est la question qu'on se pose depuis bien longtemps à propos de toutes les sociétés secrètes dont on a entendu parler, hein. La fameuse société Thulé qui aurait été derrière l'avènement du nazisme, etc., qui aurait manipulé toute l'histoire de l'Allemagne, de l'entre-deux-guerres et tout. On peut se demander encore aujourd'hui si c'est pas simplement une bande d'allumés comme il y en avait des milliers d'autres, parce qu'il y a eu des milliers de sociétés, de petites sociétés secrètes comme ça. En Allemagne, après la capitulation et pendant la République de Weimar, et qui justement étaient toutes des sociétés d'extrême droite, hyper nationalistes, etc., qui voulaient rétablir la grandeur de l'Allemagne et tout. Mais la fameuse société Thulé, donc, qui aurait manipulé toute l'histoire de l'Allemagne et dont Hitler aurait été la poupée porte-parole, quand même, quand on regarde historiquement, au moment de la Révolution, ils étaient basés à Munich. Munich, il y a eu la révolution spartakiste. Première chose qu'ont fait les spartakistes, c'est qu'ils ont exécuté la plupart des membres de la société Thulé. On peut se dire quand même qu'avec les super pouvoirs qu'ils avaient, ils n'auraient pas dû se retrouver collés contre un mur avec 12 balles dans la peau. Ils auraient dû, au contraire, vaporiser Rosa Luxembourg et ses petits copains immédiatement. Donc ça, là, on peut dire que dans Un pape pour l'Apocalypse, on suit vraiment une histoire secrète. Mais justement, je repense aux Enfants d'Erebus, la trilogie des Enfants d'Erebus. Là, les Enfants d'Erebus, où on a des nazis méchants, enfin, tout ce qu'on aime,
Des
quoi, à côté.
tentacules.
Il y a des tentacules géants, des créatures bizarres et tout. Enfin, tout ce qu'on aime, quoi.
Voilà.
Des
Et les
dirigeables,
dirigeables.
et
N'oublions
tout.
pas les
Bon,
dirigeables.
bah, les Enfants d'Erebus. Alors, effectivement, tu cites dedans la Nenerbeu, il y a quelques éléments qui sont. Mais on voit immédiatement que là, il s'agit d'un roman.
C'est ça. Bon, là, on vire beaucoup plus vers Lovecraft, pour moi, voilà, c'était, j'avais envie de, bah, comme tu disais, hein, de mettre tout ce que j'aime bien un peu dans le, du côté, enfin, de la littérature pulp de l'époque. Donc voilà, des méchants nazis qui évidemment complotent, on va dire, dessous, avec dans des sociétés secrètes, dans la Nenerbe, tout ça, qui est vraiment lié justement à des créatures venues du fond des temps. Donc on a tout ça qui se retrouve dans les trois volumes. Mais là, par contre, oui, j'ai décidé de virer tout à fait du côté fantastique, du côté lovecraftien. Voilà, tel que ça pouvait être fait. On n'est plus du tout sur le registre, on va dire, de livres ésotériques, enfin, ou alors très très peu. Plus d'aventure, non, en fait.
Là, hein, c'est de l'aventure pure et dure, à la Indiana Jones, quelque
part. C'est ça,
à
Indiana Jones, avec un petit aspect Lovecraft, un petit, même gros aspect Lovecraft, voire même un peu de Jules Verne à un moment donné. Donc, je me suis beaucoup amusé.
Mais donc, c'est là où on voit bien la différence entre le roman et le thriller ésotérique.
Tout à fait. Qui pour moi, alors pour moi, c'était justement un exercice de style quelque part, parce que c'était un genre auquel je ne m'étais pas frotté, et c'était un défi. C'était un défi. En tant qu'auteur, c'est vrai que moi, j'aime bien ne pas me laisser enfermer d'abord dans un genre, et puis j'aime bien, moi, justement, essayer. Hein, bah, j'écris depuis que j'ai 9 ans, hein, donc ça fait un petit moment, j'ai écrit quand même pas mal de choses. Et au départ, bah, plutôt dans, au départ, j'écrivais beaucoup de science-fiction. C'est assez amusant. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai été connu. Mon premier livre qui est sorti et qui a été connu, c'est Louis le Galou, où là, j'étais carrément, en rupture totale avec ce que j'écrivais avant. Et où là, par contre, j'avais essayé d'écrire une histoire écrite, racontée un petit peu comme on pourrait raconter une histoire au coin du feu. Donc dans une espèce de français ancien recréé, une espèce d'oralité écrite. Et c'est celui-là qui m'a lancé. Et donc, par contre, comme on le sait, souvent, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais c'est un peu toujours le cas, c'est quand vous êtes connu pour une série ou un livre et qu'on vous découvre pour ça, on a très vite fait de vous mettre une étiquette dessus. Et alors, surtout moi, en plus, venant du fin fond du Cantal, Marc Castel, du Cantal, il raconte une histoire qui se passe au Moyen-Âge, hein, dans une espèce de Moyen-Âge, par contre, j'allais dire avec des crottes aux pieds. Hein, vraiment, pas le Moyen-Âge flamboyant, mais le Moyen-Âge, le petit Moyen-Âge. Voilà, et raconté comme un conteur au coin du feu. Donc, on met l'étiquette conteur dessus, qui vient du fin fond de la France, et crac. Je dis non, moi j'ai envie justement, j'écrivais au départ de la SF, donc j'ai envie de montrer aussi que je suis capable de faire autre chose. Donc après j'avais écrit Le Dernier Hiver, j'avais écrit d'autres livres. Et là, ben, un jour, quand on a découvert les ruines de l'abbaye à Aurillac où Gerbert avait étudié, quand j'ai vu j'ai été voir les ruines un soir, à un moment donné, je suis sorti de chez moi, il y avait de la neige sur les ruines qui avaient été excavées, il y avait des arches comme ça qui étaient... Ils avaient tout laissé un petit peu à l'air libre, et il y a une impression vraiment extraordinaire qui s'est dégagée de ça, et donc j'ai commencé à creuser sur Gerbert et sur ce personnage, et trouvant ça, je dis, mais bah, y a matière à faire quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est légende, c'est fabuleux, quoi. Je ne soupçonnais pas, moi, à l'époque, qu'il y avait tant de légendes autour de lui, alors que je passais devant sa statue tous les jours, j'ai dit, ben voilà. Il ne manquait plus que les personnages pour l'histoire, et les personnages sont venus, eux, par contre, je dirais pas tout seuls, mais voilà, ils se sont imposés d'eux-mêmes, on va dire. Et puis, un petit côté Audiard dans les dialogues qui m'amuse beaucoup.
Je dirais quelque part que c'est un roman, bon, qui en même temps fait beaucoup rire. C'est quelque part du San Antonio cultivé et pas vulgaire.
J'aime beaucoup.
Bon. Bien. Pas de questions. C'est vrai que Jean-Luc Marc Castel est encyclopédique lorsqu'il parle, il a tout couvert. Donc, bah écoutez, dans ce cas-là, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention et vous présenter encore toutes mes excuses pour l'absence de Jacques Ravenne à cause de la SNCF. Voilà.
Parce que moi,
merci beaucoup.
J'aurais bien aimé écouter ce soir avec ton livre.
Bah oui. C'est...